succombez au goût de l'Asie avec la nouvelle gamme halal de Hoanam. Name élu saveur de l'année 2024, samoussa, brioche et bouchée au filet de poulet halal origine Europe. Disponible chez Hoanam Traiteur, Paris 13e, H Market et Tang Frère.
16h, 17h, Tour du Monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Oui, bon, vous venez d'entendre le petit message de notre sponsor Hoanam, mais on va pas du tout partir en Asie aujourd'hui dans le Tour du Monde. On va dans un endroit que beaucoup de nos auditeurs connaissent bien, puisqu'on va parler de cuisine algérienne avec Anan Abdelli, restaurant Mamanissa. Bonjour Anan.
Bonjour.
Bon, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, je suis ravi de te revoir.
Pareil, partagé.
Ah, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir d'être là.
Bon, alors, c'est vrai que parler de cuisine algérienne aux auditeurs de Beurre FM, hein, c'est un peu comme si t'apprenais à un infirmier à faire un pansement, souvent, hein, souvent. Mais surtout dans le Ftour du Monde, où on évoque un petit peu des menus de Ftour originaux. Et donc, on s'est lancé un petit défi tous les deux. Enfin, je t'ai lancé un petit défi.
Un défi.
Hein, parce que tu as publié un livre qui s'appelle Goût d'Algérie, recettes et rencontres, hein, que tu as écrit avec ta maman qu'on adore, hein, Anissa, et qu'on embrasse si elle nous écoute.
Elle nous écoute, ah
bon.
Oui.
Voilà, Anissa, il faudra revenir hein, ici à la radio, hein, parce que c'est la star de Beurre FM maintenant, Anissa.
Hein. Je sais.
Anissa, qui a donné son nom à ton restaurant, Mamanissa, et puis qui est indirectement et involontairement à l'origine de ta reconversion.
Absolument.
Dans la restauration. On va en parler un peu plus en détail. Mais ce livre Goût d'Algérie, si vous avez des cadeaux à faire pendant le Ramadan, édition Mango, ça a super bien marché. Rupture, il faut en réimprimer, donc hop, vous pouvez à nouveau le commander, Goût d'Algérie. Super livre avec des très belles images et des recettes originales. Et justement, le but du jeu aujourd'hui, c'est de donner une idée de menu de ftour typiquement algérien. Mais alors, non, pas de chorba afrique.
Voilà.
Voilà, pas de felfel. Hein? Non, mais voilà,
c'était ton cahier des charges.
C'est ça. On va sortir des sentiers battus. On va sortir des sentiers battus, mais bon, avant de rentrer dans le vif du ftour, est-ce que, bon, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux raconter un petit peu l'histoire justement derrière la création de Mamanissa, parce que tu viens pas du tout de la restauration.
C'est vrai.
Hein? Et donc, quel a été le déclic? C'est un livre de cuisine qui a été à l'origine de ce truc-là.
Exactement.
Un vieux livre de cuisine.
Tout a commencé par un livre de cuisine. Effectivement, j'étais cadre supérieur dans les assurances, j'étais actuaire. Et j'ai jamais vraiment pris le temps de cuisiner avec ma mère les plats algériens. Je savais faire quelques-uns pour mes enfants, qui réclament à tour de rôle des plats, de la rechta, de la charchoura, de la shorba, à mamie. Et ma mère me dit un jour, ce serait vraiment bien que t'apprennes à faire ces plats pour tes enfants. Je serai pas toujours là. Ça va.
J'en ai marre de cuisiner à ta place.
C'est ça. Fais-le, apprends. Et je lui dis, mais maman, j'ai pas le temps. Et là, elle m'a donné un livre que beaucoup de femmes algériennes connaissent. C'est le livre qui s'appelle La cuisine algérienne de Fatima Zora Bouayed, que maman a eu pour son mariage en 78.
C'est un peu la rousse de cuisine algérienne.
Absolument,
ouais.
Absolument. Il y a vraiment.
Oui, c'était son cadeau de mariage.
Enfin,
un de ses cadeaux de mariage.
Un de ses cadeaux de mariage, parce que maman a grandi à Alger, elle a des origines de Kabylie, donc elle connaissait ces deux types de spécialités, on va dire cuisine algéroise, cuisine kabyle. Mais l'Algérie, comme on le sait tous, c'est un grand, grand pays qui a une richesse culinaire incroyable.
Oui, beaucoup plus que ce qu'on pense, parce que c'est vrai que les Algériens, alors toi, tu as remédié à ça, il y a des gens aussi comme Majouja, Tante Farida, etc., qui ont remédié à ça, donc il commence à y avoir une vraie cuisine algérienne authentique à Paris.
Tout à fait.
Y compris Kabyle. Mais c'est vrai qu'avant, un Algérien qui ouvrait un restaurant à Paris, il faisait soit un restaurant marocain, soit un restaurant de grillades, brochettes, etc.
Exactement. Et là, c'est vrai que si on est dans les cuisines de maman, cuisines qui prennent du temps, cuisine traditionnelle, et y a beaucoup, beaucoup de spécialités.
C'est la mamma, mais à la version algérienne.
Algérienne, hein. Exactement.
Alors, chez Mamanissa, toi, tu t'adaptes un petit peu pendant le Ramadan. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Mamanissa au niveau des horaires d'ouverture, au niveau des menus, etc. pendant le Ramadan?
Pendant le Ramadan, déjà, on ouvre en continu, de midi à 22h30. Comme ça, tout le monde peut passer, prendre, acheter, à emporter, se faire livrer. On propose des ftours. Alors, la version à emporter et en livraison, c'est la ftour box. C'est une petite boîte très mignonne dans laquelle on a les indispensables.
Un ftour
box, et vous avez la shorba, les bourek, la salade, le qalb louz, avec le pain, la kesra. Et après, vous pouvez compléter avec ce que vous voulez, la Ftour Box. On a des mhajib, on a des hummus, on a une spécialité évidemment, où tous les 2-3 jours, on change de spécialité algérienne spécifique du ramadan. On essaye de faire découvrir tout un tas de spécialités. Et puis, on organise aussi des ftours le soir. Vaut mieux réserver parce que le restaurant n'est pas très grand.
Oui, on peut faire le ftour sur place
on
aussi.
On peut faire le ftour sur place. Et là, c'est une formule unique et c'est vraiment de la shorba jusqu'au thé à la menthe, tout, y compris les boissons, les spécialités. On vous resserre si vous avez encore faim. Enfin, voilà, c'est comme
c'est
à la
maison. C'est un challenge en restauration de faire le ftour sur place parce que, évidemment, tout le monde veut manger au même moment, à
exactement.
La même heure. Top départ.
Tout à fait.
Je sais pas, t'as dû staffer un peu plus.
On a staffé plus. Et surtout qu'on a gardé aussi, évidemment, on veut pas exclure la clientèle qui fait pas le ramadan et qui vient manger à la carte les menus classiques. Donc, effectivement, l'équipe s'est dédoublée. Et en revanche, la formule ftour, elle est unique. Parce que là, pour le coup, si les ftour, c'est à la carte, j'avais essayé ça la première année après l'ouverture. On peut pas manger.
Fausse bonne idée.
Temps. Voilà. Fausse bonne idée, en fait. Ouais. Et donc, on envoie tout en même temps, effectivement. C'est challenging, mais bon, on transpire un peu le soir, mais les gens repartent contents.
Bon, alors c'est vrai que le ramadan, c'est à la fois une période où les gens parfois mangent un peu beaucoup, et puis une période où on essaye malgré tout d'essayer de manger un peu mieux, un peu plus aussi. Et justement, Maman Issat, c'est vrai que tu es partie des recettes de ta maman, mais tu as travaillé avec une diététicienne pour essayer de les rendre un petit peu plus aussi, tout en gardant le goût authentique. Ça, c'est un vrai challenge. Comment t'as réussi à mixer les deux?
Ben, en fait, en vérité, c'est pas si compliqué dans la mesure où on est sur un régime méditerranéen, sur une cuisine saine. Bon, il y a les plats de fête, évidemment. Quand on est sur des plats de fête, il y a forcément beaucoup de viande, il y a forcément, c'est riche, mais comme dans toute culture, comme dans toute cuisine.
Oui. Et puis il y a des recettes algériennes, notamment les pâtisseries, rien qu'en les regardant, tu prends 8 kilos, quoi.
Mais par exemple, les pâtisseries, on n'est pas obligé de mettre autant de sucre. Si vous remplacez, en fait, parfois, on a tendance à remplacer les fruits secs qui sont très coûteux, les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches. Comme c'est coûteux, on a tendance à en mettre un peu moins et à remplacer par du sucre. En vérité, si vous mettez la bonne quantité de fruits secs, alors évidemment, ça fait des gâteaux un peu plus coûteux, mais on peut en faire moins et on met moins de sucre. Et là, on sent vraiment toute la saveur des amandes, des noix, de la fleur d'oranger et ça donne des gâteaux extraordinaires. Et c'est vrai que chez Maman Issa, on réduit le taux de sucre de 25%. En plus, ma mère est diabétique. C'est pour ça que j'ai grandi aussi avec cet effet de il faut pas mettre trop de sucre. Notre thé à la menthe est sans sucre. En vérité, on s'habitue et quand on goûte les gâteaux avec le taux de sucre réduit, franchement, on se dit, c'est super bon, quoi.
Alors, on a fait une émission hier avec Constance de Bonaventure, qui est journaliste, reporter, etc. Qui a écrit un livre, Les secrets de la gomme arabique.
C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est un livre passionnant parce que bon, il y a des recettes, etc. Mais il y a aussi toute l'histoire de la gomme arabique depuis la nuit des temps, puisqu'on s'en servait pour coller les bandelettes des momies et donc ça a des propriétés de conservation aussi.
D'accord.
Voilà. Et c'est vrai que pour désucrer des préparations tout en gardant le côté yummy, tu vois, yummy, fluffy et compagnie, comme disent les jeunes, c'est vrai que la gomme arabique, c'est magique parce que c'est pas calorique, quoi.
C'est
vrai que c'est déjà utilisé dans les pâtisseries orientales,
dans les glaces
du Maghreb, les glaces libanaises, l'ashta notamment.
Tout à fait.
Et c'est vrai que mettez un peu plus de gomme arabique et un petit peu moins de
sucre,
et un petit peu moins de sucre. Hein, et c'est vrai que c'est une solution pour faire des choses un peu plus ici. Alors on va commencer un peu notre menu de ftour original. D'abord on va partir un petit peu vers Biskra, je crois, parce que tu vas nous parler de la Doubara. Alors voilà, donc pas de chorba afrique aujourd'hui.
Pas de chorba afrique. Allez, on fait
dans ce ftour traditionnel algérien. C'est toujours traditionnel algérien, mais c'est la Doubara. Alors, parle-nous un petit peu de cette recette originaire de Biskra.
De Biskra, la Doubara. Déjà, l'histoire de la Doubara. Doubara, ça veut dire la débrouille.
D'accord.
Alors, quel est le lien entre la soupe et la débrouille?
Ben oui.
Alors, il y a une légende, une histoire autour de cette soupe. On raconte qu'un homme est rentré un soir à la maison chez sa femme. Il avait des invités surprises et il lui dit : tu nous prépares un repas. La dame n'avait quasiment rien dans ses placards, en dehors du ravitaillement classique qu'on a dans le placard d'une Algérienne, à savoir des fruits secs, des légumes secs, des pois chiches, des fèves, de la tomate concentrée, des épices, pas grand-chose. Et elle était en stress et elle se dit, bon, bah, je vais inventer une recette pour régaler ses convives à l'improviste.
C'est comme la salade César, quoi.
C'est ça.
C'est un accident.
Exactement.
J'ai plus rien dans le frigo.
Qu'est-ce qu'on raconte. Et donc, elle va préparer, c'est une soupe avec donc des fèves, des pois chiches, de la tomate concentrée, de l'ail, un peu avec comme la dersa, avec de l'ail, du cumin, les épices qu'elle a, un peu de piment, bien sûr. Et elle va la servir à ses invités, qui trouvent ça absolument délicieux, bien sûr, et ils lui disent, mais comment s'appelle cette spécialité? Et elle leur dit, c'est la dobara, qui veut dire la débrouille.
Alors, je vais te dire, en tant que journaliste, on aime toujours investiguer quand on est journaliste. Ouais. Moi, je pense, soit que ça s'est passé au printemps, et qu'elle avait des fèves fraîches et des pois chiches frais, soit c'est effectivement une légende, parce que si effectivement elle a dû le cuisiner au dernier moment...
C'était des fèves sèches,
hein. Les fèves et les pois chiches n'ont pas eu le temps de tremper. Ou alors ils ont mangé tard.
Ou après il y a des femmes qui font toujours tremper leurs pois chiches.
C'est vrai, il y en a toujours dans un coin.
Moi je sais que chez maman,
coin.
Elle a toujours un bocal.
Voilà une autre version très intéressante.
Avec
ouais,
des pois
absolument.
Chiches qui trempent, elle est toujours prête à dégainer ses pois chiches, parce qu'on en met partout.
Mais les fèves fraîches, là ça arrive, la saison, qu'est-ce
sèche.
Que c'est bon.
Ah ouais, c'est bon. Ah ben nous au resto, la semaine prochaine on fait les fèves.
Moi j'enlève la grosse peau et je mange l'intérieur cru.
C'est hyper bon.
On fait ça chez nous en Corse, qu'est-ce que c'est bon.
Ou alors quand t'achètes les fèves très très fines, les plus fines, les premières du printemps, tu peux manger la cosse, c'est hyper bon.
C'est magnifique. Alors les ingrédients principaux, à part les pois chiches, les fèves, c'est effectivement pour conforter la légende des ingrédients qu'on trouve toujours dans le placard de la ménagère, des tomates, de l'ail, du piment vert, de la coriandre, du concentré de tomate, de l'huile d'olive, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, puis les épices. Alors, et certains le font avec du cumin, d'autres avec du ras el hanout. Toi, ta version, t'es quel team, toi?
Moi, c'est ras el hanout, mais à la fin, on rajoute une petite pointe de cumin.
D'accord.
Parce qu'en fait, le cumin a des vertus médicinales, ça rend plus digeste les fruits, les légumes secs. Les pois chiches et les fèves, parfois, ça peut faire gonfler un peu le ventre, mais si on met du cumin, ça les rend, ça limite les effets, les désagréments digestifs.
Alors, et les amis algériens qui m'ont fait goûter la doubara pour la première fois m'ont dit, j'allais pour la goûter, ils ont dit, attends. Et ils ont pris une bonne huile d'olive algérienne.
Voilà, exact.
Et c'est un sacrilège si on met pas le filet d'huile d'olive algérienne sur la doubara avant de la déguster. Et puis, parfois aussi un peu d'oignon nouveau.
Exactement. Nous, on met de la cébette.
Coriandre.
Peut-être même un peu de tomate concassée si c'est la saison fraîche, ou alors en boîte si jamais c'est pas la saison. Tu rajoutes un petit peu de ça. Les épices, la cébette, du piment si tu
aimes. Et j'allais dire un peu de piment fort pour ceux qui aiment ça.
Et c'est extra, c'est très parfumé.
Alors, toi, c'est quelque chose que tu cuisines de temps en temps, la doubara chez Mama Nissa?
Ouais, on la cuisine chez Mama Nissa, on l'a fait beaucoup l'hiver et elle a énormément de succès.
C'est un plat qui marche très bien pendant le ramadan en Algérie aussi, dans certaines régions, notamment à Biskra.
Dans le sud. Ouais.
Je pense qu'elle marche peut-être même un peu mieux que la chorba afrique ou la chorba beida.
Je pense. Ouais. Et puis c'est très sain. Et on a toute une clientèle végétarienne et végane qui adore manger la
doubara.
Et c'est très savoureux. Ouais, c'est très très bon.
Et c'est nutritif. Donc pour quelqu'un qui ne mange pas de viande en période de ramadan, la doubara c'est l'idéal.
Plein de protéines végétales, c'est extra.
Alors pour avoir une bonne doubara, le truc qui est essentiel, c'est cette sauce qui est légèrement piquante et citronnée à la fois. Est-ce qu'il y a un secret, une astuce pour avoir cette saveur unique, piquante et citronnée à la fois? Alors un petit tour de main.
Déjà le piment bien sûr,
on en met un petit peu.
Le citron, et puis c'est une cuisson hyper longue, on laisse mijoter longtemps. Je sais qu'aujourd'hui il y a pas mal de femmes qui mettent ça dans la cocotte minute pour aller vite.
Au thermomix,
mais c'est bien, parce que quand on sort du boulot, on n'a pas le temps.
Ah, c'est sûr, on gagne du temps.
Voilà. Et puis, il faut éplucher les fèves. Et ça, je sais qu'au resto, parfois, j'ai mal aux doigts parce qu'on les laisse tremper. Et après, il faut, entre le pouce et l'index, hop, on appuie, on les épluche. Et ça c'est un peu
incroyable. Ta maman, Anissa, elle nous écoute, elle dit, mais n'importe quoi, éplucher les fèves, ça prend 5 minutes.
Hein, c'est ce qu'elle
veut dire. C'est ça, c'est le genre. Bon, on fait une petite pause, Anane, et on revient tout de suite pour parler cuisine algérienne dans le Tour du Monde. À tout de suite.
Tour du Monde revient dans un instant.
Suivez Tour du Monde avec la nouvelle gamme halal de Hoanam.
16h, 17h. Tour du Monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le tour du monde. Aujourd'hui, nous allons en Algérie, un pays qui parle à beaucoup de nos auditeurs, hein, et pour cause. Nous sommes avec Anan Abdelli du restaurant Mamanissa, 14 rue Mandar, Paris 2e. D'ailleurs, si vous avez envie de poser des questions à Anan, vous nous appelez 01 53 48 3000. Ou même si vous avez envie de dire bonjour, passer un petit bonjour, souhaiter un bon ramadan à quelqu'un. N'hésitez pas. Et puis, on répond également à vos questions. On est en direct. Il est 16h23 exactement. Anan. On parlait de la Doubara, hein, juste avant la pause. On va passer à la suite, parce que là, bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre juste à l'instant, Anan nous propose un menu de ftour algérien, mais voilà, je vais lancer le défi de sortir du traditionnel shorba frik, borek, voilà, etc. Non, un truc original qu'on a moins l'habitude de manger. C'est vrai que la Doubara, c'est un parfait exemple. Alors, pour finir sur la Doubara, c'est vrai que souvent la Doubara, on la sert avec du pain, avec divers légumes, etc. C'est quelque chose d'assez consistant au final. Nous, on l'a mis comme ça, comme entrée, comme amuse-gueule, mais ouais. Bon. c'est vrai que c'est quelque chose, on le disait, notamment pour les gens végétariens ou véganes, quelque chose de très nutritif. Hein. Alors, ensuite, nous allons passer à... Tu m'arrêtes, hein, parce que moi, je fais toujours attention aux prononciations. La Zrodia Mshermla.
Mshermla.
Bon, voilà, à tes souhaits. Allez, la Zrodia Mshermla. La Zrodia Mshermla, c'est, alors, on peut dire que c'est une sorte de salade, hein, de carottes qui est, alors, salade de carottes, c'est pas une banale salade de carottes, c'est relevé, c'est savoureux, hein.
Ça donc, demande un peu de travail, ouais.
Voilà, ouais, parce que c'est cuit avec de l'ail, du cumin, de la harissa. Alors explique-nous un petit
exactement,
peu la
recette. Exactement. En fait, le principe de mshermla, ça donne aussi charmoula. La mshermla, en fait, c'est une préparation, c'est un mode.
C'est un condiment.
C'est un condiment, voilà. Exactement, qui peut se faire avec du foie. Il y a le kebda mshermla aussi.
Donc
qui
c'est des carottes
connu.
À la charmoula, on pourrait dire.
Exactement. Et alors la spécificité dans cette version, en tout cas qu'on prépare nous la Zrodia mshermla, c'est que on met pas du cumin. On met du karwi, le karouia.
Ah oui.
Qui est l'épice, on appelle ça d'ailleurs cumin.
Tu le mets en graines
prés.
Ou tu le mets moulu?
Les deux.
Parce que là, quand c'est en graines, j'aime bien parce que ça fait des petites capsules qui explosent et qui dégagent une saveur adorable.
Exactement. Hein, ouais. C'est vraiment, il y a un côté cumin, mais c'est plus citronné, c'est beaucoup plus fin et donc c'est voilà, il faut faire cette préparation donc avec la karouia en poudre et en grains, de l'ail, de l'huile d'olive, on met un peu de tomate concentrée, on met de la coriandre. Voilà, et après les carottes, on va les faire... donc d'abord, on les fait pré-cuire, et après, on va les laisser macérer tranquillement et cuire dans ce mélange.
Voilà, à feu doux pour que les carottes restent entières.
Exactement. Ah. Et un autre secret de la Zrodia Mshermla, et on peut faire ça avec des patates, on peut faire ça avec des fenouilles, avec ce qu'on veut, c'est de rajouter du vinaigre. Il faut une touche d'acidité.
Oui, alors certains mettent du jus de citron à la place. Oui, jus de citron, vinaigre, parce qu'une petite touche d'acidité, et puis à la fin, persil, coriandre frais.
Absolument.
Hein, ça y est, j'ai bien bossé je ne voudrais pas faire de sacrilège. Alors c'est vrai que c'est une entrée qui est légère et épicée. Nous on vous le présente comme une entrée, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on sert souvent avec les plats principaux comme side, comme disent les Américains.
Absolument.
Hein, les sides,
tout à fait, qui est très sain d'ailleurs.
C'est sain, oui, absolument, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que pour accompagner un tagine ou un plat de viande, avoir cette petite salade un peu fraîche à côté et avec la légère acidité.
Exactement.
C'est vrai que c'est agréable. Alors quand on fait une Zrodia Mshermla comme ça,
wow, bien,
c'est vrai
bien prononcé là.
T'as vu, je m'améliore. Plus je vais le dire, mieux ça ira. Plus ça ira. C'est vrai que il faut des très bonnes carottes, hein, parce que si on fait ça avec les carottes du supermarché du coin importées, ouais, d'on ne sait où,
on va pas sentir.
Faut qu'il y ait du goût.
Il faut qu'il y ait du goût. Exactement. Là, c'est basé sur la qualité des produits qui vont constituer cette recette. Vous prenez de bonnes épices. de la bonne carotte, un bon vinaigre aussi. Oui. Au resto, nous, on met du vinaigre de pomme qui vient d'Algérie.
Ah, génial.
Voilà.
Vinaigre de cidre aussi, ça doit être pas mal avec la carotte. Exactement. Vinaigre de cidre et carotte, ça, tiens, je vais essayer ça un jour.
Extraordinaire, c'est très très bon.
Et alors, faut bien doser le piment ou l'harissa, parce que c'est vrai que c'est un plat, comme c'est un plat fin et délicat.
Tout à fait.
Si on dose pas bien le piment, on a très vite fait de tuer le plat, en fait.
Exactement. Hein. Ouais. Exactement. Nous, d'ailleurs, on le fait sans piment. On le fait sans piment, et pour les amateurs, ils en rajoutent un peu à côté.
Fin, ouais. Alors c'est oui, donc comme je le disais, c'est nous une entrée, mais c'est souvent servi comme accompagnement avec des plats. Quels sont les plats typiquement accompagnés de Zourodgam Sharmla?
Ça peut être des grillades par exemple. Là en plus on arrive en fin de Ramadan, on voit aujourd'hui les clients qui ont beaucoup mangé, qui commencent à rechercher un peu de légèreté, un peu de fraîcheur. Et c'est vrai que un petit plat de grillade, des petites merguez, des kefta comme ça, comme avec accompagné de Zourodgam Sharmla, c'est magnifique.
Alors pour les auditeurs qui se disent oh là là mais ils parlent trop vite, on n'a pas le temps de noter la recette, etc. Évidemment on rentre pas dans le détail de chaque recette, hein. L'idée c'est de vous donner envie de cuisiner ces plats. Vous trouvez des recettes sur internet, mais surtout ces recettes là vous les trouvez dans le livre
Goût d'Algérie.
Goût d'Algérie, donc écrit à quatre mains, hein, Anan et Anissa Abdelli.
Et Aline Princey.
Voilà.
Qui était la photographe.
La photographe du livre, oui. Je parlais écrit, mais j'allais dire avec les illustrations d'Aline Princey. Chez Mango Édition, il y en avait plus, mais il y en a encore. Donc maintenant, on peut à nouveau le commander.
C'est un très beau.
Si vous avez des cadeaux à faire, en plus, pour un livre de cette taille-là, avec ces belles recettes et ces belles photos, 31,95 €. Si vous avez un cadeau sympa à faire pendant le Ramadan, c'est l'idéal. Et pour ceux qui ne savent pas cuisiner, même avec un livre de cuisine entre les mains, on va chez Mamanissa, 14 rue Mandar, dans le deuxième, c'est en plein centre de Paris, donc on n'a pas d'excuses, c'est pas très loin des Halles, hein, où il y a tous les RER, toutes les lignes de métro.
Il y a pas plus central.
On n'a pas d'excuses. Ouais. Et c'est juste en face de la rédaction de magazine auquel je collabore.
Technicart et
Grand Seigneur.
Très sympa.
C'est vrai. Et à chaque fois que je vais à la rédaction, je passe te faire un petit coucou. La dernière fois, tu n'étais pas là d'ailleurs. C'était pas la bonne heure. Alors, justement, pour revenir un petit peu à la tradition du culinaire du Ramadan en Algérie, c'est vrai que l'Algérie c'est un pays de région aussi.
Tout à fait.
D'une région à l'autre des façons différentes de cuisiner le ftour? Est-ce qu'il y a des régions où on va avoir tout le temps forcément ce plat là sur la table, ou forcément cette salade là?
Oui, je crois qu'effectivement, c'est l'Algérie, donc c'est un pays très grand avec des régions, et les régions sont très fortement marquées au niveau culinaire. Mmh. Et par exemple, j'ai une amie, elle est d'Oran, il y a toujours la harira, il y a toujours un tagine lahlou. Elle me dit, nous, c'est obligatoire en fait. Il y a toujours du sucré salé, il y a une harira, il n'y a pas de chorba afrique.
Oui, oui.
Alors qu'à l'Est, vous allez trouver la chorba afrique sur beaucoup de
c'est
tables.
Vrai qu'à Oran, c'est la harira
est à l'ouest,
dont on dit qu'elle est marocaine, mais en fait c'est un plat berbère, et donc forcément
exactement.
On la trouve à Oran
et on la trouve dans l'ouest de l'Algérie aussi. Comme on la trouve au Maroc, à Alger ça va être la chorba mqatfa avec les vermicelles, ou alors la chorba beda blanche au poulet.
Alors il y a à Oujda, il y a une soupe qui ressemble à la chorba beda aussi, tu vois,
au poulet aussi.
Ouais, tu vois, comme quoi, il paraît qu'il y a des soucis entre les Marocains et les Algériens, mais au moins la cuisine, il n'y a pas de frontières.
Exactement, exactement.
On est toujours d'accord, ça met tout le monde d'accord, la cuisine.
Ça met tout le monde d'accord. Et d'ailleurs, dans le livre Goût d'Algérie, je précise qu'il y a aussi des portraits et des interviews. Il y a 8 témoignages de personnalités issues de la diaspora, comme Rachid Arab, comme Lina Swalem, comme Sophia Djama, comme Samira Brahimia,
Benjamin
Stora, tout à fait.
Grande plume, et grand homme,
tout à fait. Et ils nous parlent de leur rapport à la cuisine algérienne, de leur goût d'enfance, de leur Madeleine de Proust. Et c'est hyper émouvant, en fait, ça a été très émouvant de les écouter parler de ça. Et c'est dans le livre, ces 8 entretiens sont absolument à découvrir aussi. Hein.
Mmh. Eh ben, tu sais quoi, on va même le faire gagner le livre tout à l'heure.
Allez, c'est parti. Hein,
d'accord, super. on fait comme si c'était improvisé, mais on en a parlé un petit peu avant.
Hein. C'est un plaisir.
Ouais, j'arrive pas à mentir, moi, c'est difficile. Hein. On parle effectivement des spécificités régionales, hein, de la cuisine du Ramadan en Algérie. Mais c'est vrai que le Ramadan, toi tu as fait beaucoup de tu as passé beaucoup de Ramadan en Algérie, toi, dans ta vie?
Non, quand j'étais petite, oui.
Quand tu étais petite, ouais.
Et je me souviens de tablés magnifiques, très colorés.
Tiens, justement, c'est intéressant parce que quand on est enfant, on a des souvenirs qui sont à travers un prisme un peu différent. Toutes les choses paraissent encore plus grandes, encore plus belles, encore plus incroyables. Alors, justement, de tes souvenirs de Ramadan en Algérie, quel est le souvenir qui t'a le plus marqué, par exemple?
Moi, par exemple, c'était la sherbette, la citronnade, ouais, qu'on prenait toujours en début de repas. Enfin, moi, j'étais enfant, je faisais pas le Ramadan, mais bon, c'était comme si... Et tout le monde commençait par la sherbette et c'était mon père qui le préparait.
À maison.
Ouais, et j'avais l'impression que ça se méritait, tu vois. Mmh. Et il y avait aussi la zaalouka.
À quand un bar à soda qui s'appellera Papa Nissa, Papa non?
On fera que de la sherbette. Ouais, ça je me souviens.
Et du crépone.
Et le crépone. Eh,
on n'a jamais trouvé de crépone à Paris et toi tu en as fait il y a quelques temps.
Bah, ouais. Il revient bientôt, voilà. Chaque année maintenant.
Chaque année.
On a fait 3 ans de crépone. Exactement. J'ai essayé l'hiver, mais les Algériens me disaient non, je vais avoir une angine.
Oh bah non. Alors, tu sais que moi je soigne le mal par le mal. Hein. Ben quand voilà, j'ai une angine, même en plein hiver, je prends des glaces. Je vais chez Bachir à côté de chez moi et je prends l'achta libanaise.
Bah ouais, du coup j'ai arrêté le crépone l'hiver parce que bon voilà, on m'a dit que ça provoquait des angines. Mais là, dès le mois de mai, inchallah, vous allez retrouver le
crépone. C'est un antiseptique puissant.
Mais oui, j'en suis convaincue aussi.
Ouais. Et alors, c'est toi, quel est ton bon là, on impose un peu le menu aux auditeurs. Hein. C'est pour les inciter à être un peu plus curieux et à sortir des grands standards. Mais toi, quel est ton plat incontournable d'un menu de ftour, celui que si tu pouvais l'avoir à chaque ftour, tu rêverais de l'avoir?
Ah, moi ce serait un tagine soit de fèves petits pois.
Ah ben ça tombe bien.
Fèves petits pois.
On va en parler dans un instant, dis donc.
Ou alors karnoun, artichaut petits pois. Mais ça, pour moi, c'est des incontournables avec une viande d'agneau qui a mijoté longtemps, un bon pain matloua. Pour moi, ça, c'est vraiment... Sauf, évidemment, quand le Ramadan tombe l'hiver, où là, ce serait plutôt les cardons, le khorchef.
Oui, c'est ma passion. Oui. J'adore qu'on mange beaucoup aussi dans les parties kabyles de l'Algérie.
Tout à fait.
Absolument.
Moi, ça, c'est l'un de mes plats préférés, le tagine de cardon.
D'ailleurs, c'est sous le contrôle de Fodil. Quand je dis ça se mange aussi chez les kabyles, les cardons, il dit oui, et il se lèche les babines. Ah ouais. Allez, on fait une petite pause pour que Fodil puisse se remettre. Et puis, on se retrouve juste après pour la suite de ce tour 100% algérien avec Anan Abdelli, restaurant Mamanissa. À tout de suite.
Ftour du monde revient dans un instant.
Suivez Ftour du monde avec la nouvelle gamme halal de Ohanam.
16h, 17h. Ftour du monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans le Ftour du monde. Aujourd'hui, nous sommes attablés avec Anan Abdelli, restaurant Mamanissa et auteur du livre Goût d'Algérie, recettes et rencontres, écrit avec sa maman Anissa Abdelli, hein, qui a donné son nom au restaurant Mamanissa rue Mandard dans le 2e, et avec des très très belles photos d'Aline Princet. Un livre qu'on vous recommande et dans lequel vous allez trouver toutes les délicieuses recettes, hein, qu'on est en train d'évoquer. Alors, comme je le disais, on était attablés sur cette table de ftour avec Anan. On a commencé par une doubara. Je vais réessayer encore, je vais me vautrer sur la prononciation. Hein. Zroudiam Shermla.
Très bien.
Ah, ça y est, j'ai validé aussi par Fodil. Hein, alors là, parce que toi, t'es gentil, mais lui, il me laisse passer rien. Hein, alors là, ça, je peux te dire, si je l'avais mal prononcé, il m'aurait pas mis le pouce en l'air. Hein. Et donc là, on va attaquer le plat de résistance. Alors, écoute, figure-toi que, tu sais, il y a Philippe Robichon, l'imam Abdel Ali et leurs invités font le ftour à la radio, puisqu'on fait l'ADN en direct, hein, avec l'imam Abdel Ali chaque jour. Et donc, tu nous proposes un tagine karnoun, donc un tagine de petits pois et artichauts, qu'on appelle aussi Jalbana Bel Karnoun.
Exactement,
j'ai entendu,
hein, tout à fait, Jalbana Bel Karnoun.
Alors, je voulais ta confirmation de savoir si c'était bien le même plat, parce que je trouvais que ça ressemblait beaucoup.
C'est ça.
Et donc, Fouzia Mamoun, la femme de l'imam Abdel Ali, souvent nous cuisine des bons petits plats que nous ramène l'imam. Et puis moi, je suis resté manger hier.
D'accord.
Et figure-toi qu'il nous a ramené un tagine karnoun. Tu vois, un peu, le monde est petit, il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas de hasard. Et alors, c'était comment?
Eh ben, c'était bon. C'était bon, avec des petits pois frais. Et franchement, non, c'est un plat que j'adore. Moi, les petits pois, même crus, je les mange. Hein, quand c'est le début de la saison, les petits pois qui viennent juste d'être écossés, sais, qui sont qu'un peu comme de la sève qui sort. Tu manges ça cru.
C'est hyper bon. Hein.
C'est magnifique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le tagine karnoun ou jalbana belkernoun, c'est un plat algérien vraiment traditionnel qui est en fait un ragoût de viande. Alors Toi, tu le cuisines, je crois que ta recette, elle est à base avec du mouton, hein,
avec de l'agneau.
Ouais. C'est vrai qu'on le trouve beaucoup avec du veau ou du bœuf aussi, oui. Hein, selon les régions. Encore des spécificités régionales.
Exactement. Et même du poulet dans certaines régions.
Du poulet. Alors ça, je l'avais pas vu, effectivement. Et donc, c'est avec des petits pois, des cœurs d'artichaut. Mais alors, c'est assaisonné avec des épices, notamment de la cannelle, hein, qui donne un côté un petit peu enveloppant, enrobant. Hein,
exactement.
Assez intéressant. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un plat qu'on aime beaucoup pendant le mois de Ramadan, quand le Ramadan tombe, comme là au printemps.
Au printemps.
Parce que c'est vrai que c'est un plat typiquement de saison, mais qui est aussi assez réconfortant. Hein, toi, tu le sers, j'imagine, de temps en temps, parce que tu fais tourner un petit peu les plats. Hein, tu as une carte vivante,
hein,
qui suit un peu les saisons, etc. Alors, je viens de parler de la cannelle, mais quelles sont les épices qu'on utilise pour agrémenter ce plat? Parce que c'est un plat qui est très parfumé. Hein.
C'est très parfumé. En fait, le secret, c'est toujours la cuisson lente et à basse température. C'est le principe du tagine. D'ailleurs, quand on tagine, en gros, ça fait référence au plat.
Oui, c'est le contenant.
C'est le contenant.
D'ailleurs,
exactement.
En Tunisie, le tagine, c'est pas du tout un ragoût. Hein. Le tagine, c'est une espèce d'omelette,
ouais,
hein, voilà. Mais cuite dans un tagine.
Dans un tagine, voilà. C'est ça. Et donc, c'est vraiment la cuisson lente. Et il faut vraiment que tous les ingrédients, d'abord la viande et ensuite les légumes, vont lâcher leur saveur. Ils vont exprimer tout leur parfum. C'est pour ça qu'on prend des produits les plus frais. Et au niveau des épices, effectivement, il y a de la cannelle qu'on met en bâton. On met
pas en poudre. Pas en poudre, attention.
Non, en bâton pour qu'elle infuse sans colorer le plat. Du poivre noir pour le parfum, du poivre blanc pour que
Et puis c'est moins envahissant. La cannelle en bâton, ça parfume délicatement, élégamment, mais ça n'envahit pas le palais.
Ça n'envahit pas le palais, exactement. Et c'est tout, en fait. Hein. C'est pas un plat avec beaucoup d'épices, c'est très fin. Mais on laisse mijoter longtemps et on met de la viande de qualité. C'est vrai qu'au resto, nous, on met de l'agneau de lait de l'Aveyron en gigot.
L'alaiton. Ouais. Comme on l'appelle.
Et là, c'est
et déjà, bah, trouver ça en halal, c'est pas facile.
C'est pas
Je sais
facile.
Que il y a Wadi, l'atelier de la viande, qui fait de l'agneau à l'aiton de l'Aveyron halal, qui est délicieux d'ailleurs.
C'est délicieux. Ouais. C'est délicieux.
Ah, c'est bon.
Hein. Ouais.
C'est vrai que ça, c'est une révolution dans le monde de la boucherie halal. C'est que avant, on trouvait de la viande halal. Point final.
Point final. Maintenant,
aujourd'hui, on trouve vraiment des viandes de grande, grande qualité en halal.
Absolument. Ouais. Qui ont évidemment leur prix. Je ne vais pas vous mentir. Ça coûte plus cher, évidemment.
Bien sûr.
Mais quand on goûte les plats.
Mais chez les bouchers tradis aussi, hein.
Bah,
entre la vache de réforme et la viande de race. Et c'est vrai que ça remet un petit peu aussi l'église au milieu du village, si je puis dire, en parlant de Ramadan. mais parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, le Ramadan, c'était un synonyme de profusion de nourriture et notamment de viande. Alors que, en fait, ça permet de revenir un peu à l'essence du Ramadan, c'est-à-dire que je me nourris bien, je me nourris mieux.
Voilà.
Et donc, on achète peut-être moins de viande, on en consomme moins, mais de qualité.
Ouais. Exactement. Nous, la viande hachée, c'est de la viande montbéliarde aussi, hachée le matin.
Ouais.
Voilà. Et c'est ce qui permet de vraiment apprécier les plats comme il faut.
Ça, c'est un message qui me plaît. Alors, on parle d'artichauts, justement, là. En ce moment, on a plein de variétés d'artichauts différentes. Quelle variété d'artichauts tu recommandes pour faire un tagine karnoun?
Soit on prend des petits violets.
C'est assez bon. Ouais.
Ça, c'est super bon. Soit des artichauts classiques, mais il faut les tourner. Et pour extraire juste le fond.
Oui, les petits artichauts violets, tu peux les mettre entiers dedans.
Tu les mets entiers, exactement.
Ouais. On enlève les premières feuilles qui
Tout
sont
à
un
fait.
Peu dures, mais
Tout à fait.
Voilà.
Et par
Alors
contre, les grands, ouais, il faut les.
Les gros de Bretagne, là, comme on dit, là, il faut mettre uniquement le cœur.
Le cœur, voilà. Et après, si vraiment on est empêché ou qu'on n'a pas le temps et que c'est compliqué, on peut aussi prendre des fonds d'artichauts surgelés. Moi, parfois à la maison, je vous avoue, je prends ce raccourci parce que voilà. Mais c'est
parce que quand on a un restaurant, on n'a pas forcément le temps de cuisiner pendant des heures à la maison.
Tourner les artichauts, en plus, c'est un peu traumatisant pour les mains au resto. Donc,
bah, tes enfants, s'ils veulent la version originale, ils vont chez Maman Issa.
Exactement.
Bon, voilà. Alors, donc, ce tagine, c'est un plat qui est complet. Hein. On a la viande, on a des légumes. En plus, hein, pour les 7 fruits et légumes par jour, c'est bien. On est servi. C'est un plat qui est à la fois léger, fin et très savoureux en même temps.
Absolument.
C'est ça que j'apprécie dans ce plat. Et avec un bon pain.
Un matloa. Voilà. Obligé, hein. Ouais. Un bon pain matloa.
Parce que ce que je reproche à certains restaurants, c'est qu'avec les tagines, ils veulent toujours servir de la graine de couscous.
Ah non.
Ça ne se fait ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, encore moins en Tunisie. On mangerait plutôt des pâtes en Tunisie avec une viande en sauce. on mange ça avec du pain.
Avec du pain.
Et avec les doigts.
Ah, avec les doigts. Bon. On sauce le
pain. On a le droit avec... pendant le Ramadan.
Ah oui, ah, oui. Hein. C'est meilleur avec
les doigts. Bon, si vous êtes invité chez des amis, prenez vos couverts. Mais moi, attends, un tagine à la maison, moi, je prends les doigts.
Ah oui.
C'est meilleur, hein.
C'est meilleur.
Bon, d'accord. on a le droit de manger avec les doigts chez Maman Issa.
Oui, on a le droit de manger.
On a le droit.
Les... Ah, oui.
Tant mieux. Bon, c'est autorisé. C'est autorisé. Bon, surtout les coca et tout. C'est de la finger food, comme on dit.
Ouais.
Bon, tagine Karnoun. Alors, on approche un petit peu de la fin de l'émission. Donc, Anan, on va pas se quitter sans prendre un petit dessert.
Ah, il faut une sucrerie. Voilà.
Une sucrerie, mais alors là, tout, parce que moi, tu sais que je suis pas un sucré, hein, je suis plutôt un salé, mais ça, je valide, hein, le dessert que tu nous proposes, c'est une palouza à la rose.
Ouais.
Donc, c'est simple, hein, les ingrédients, c'est du lait, du sucre, de la maïzena, je crois. Hein,
maïzena, farine de riz.
Ouais, farine de riz aussi, d'accord.
Ouais.
Ouais.
Eau de rose.
Et de l'eau de rose.
Ouais.
Pour la petite touche. Alors, certains font avec de la fleur d'oranger aussi.
Tout à fait. On peut décliner à la fleur d'oranger. Il faut des amandes concassées, mondées, grillées, qu'on rajoute à la fin parce qu'il faut du croquant.
Et ça fait penser au marlouba libanais.
Ah bah, en fait, c'est un héritage ottoman. Hein.
Ouais, c'est ça.
Hein. C'est le passage des Turcs en Algérie qui a laissé une trace de ce dessert qu'on appelle aussi le mahalbi.
Et ça se déguste bien frais. Hein.
Bien frais, exactement.
C'est pas on la mange tout de suite, dès que ça a pris, il faut les mettre bien au frigo.
Il faut la faire la veille même, c'est mieux.
Alors moi, ce que je conseille, c'est... Parce que des gens, en fait, mettent les pistaches concassées dessus et la mettent au frigo après. Fausse bonne idée.
Non,
on la met au frigo toute seule.
Voilà.
Et quand ça sort du frigo, juste avant de consommer, là, on met les amandes. Et si on vient juste de les amandes concassées, si on les torréfie un petit peu dans une poêle ou au four, juste avant de servir, là, c'est magnifique.
C'est extra.
Hein, ouais, moi, c'est comme ça que je fais à la maison.
Ah bah, nous, c'est comme ça qu'on fait au resto.
Bah, tant mieux.
Sinon, ça s'imbibe.
Je vais venir cuisiner chez toi, alors. Tu vas perdre tous tes clients.
Ah non, ça m'étonnerait.
Oh bah, t'en auras en tous les cas moins qu'avec ta formule actuelle, hein, je te le dis. Alors, il y a des variantes de palouza en Algérie?
Oui. En fait, elle se décline aux agrumes. On peut en faire à la cannelle, donc fleur d'oranger. En fait, c'est un dessert, c'est un entremets qui est extrêmement léger. Et c'est vrai qu'on le trouve beaucoup sur les tables de Ramadan. Et vous pouvez l'agrémenter, en tout cas le parfumer avec ce que vous avez, entre guillemets, sous la main. Et franchement, toutes les versions sont extraordinaires. C'est trop bon.
Bon, écoute, tu sais, Alan, après ce dessert, je pensais qu'on aurait le temps de se faire un petit thé à la menthe ensemble, mais on est déjà au bout de l'émission. Alors, le thé à la menthe, on va se le faire hors antenne.
Exactement.
Et puis, on va quand même rappeler donc ton livre Goût d'Algérie aux éditions Mango, donc que tu as écrit à quatre mains avec ta maman Anissa et avec des très belles photos d'Aline Princet. Donc on vous recommande, hein, les recettes dont on vient de vous parler, elles sont dans le livre. Donc achetez le livre et cuisinez ces recettes qui sont délicieuses, hein. Moi je vous le dis pour les avoir testées. Et puis si vous voulez vraiment pas du tout cuisiner, Mama Anissa, c'est 14 rue Mandar, Paris 2e, et avec des horaires adaptés au Ramadan. Et donc allez voir Anan de notre part. On vous embrasse. Et on se retrouve demain, mais cette fois-ci, on sera plus spécifiquement en Kabylie avec Majouja, avec Katia et Nora. Allez, à demain.
Sahaf Tolkoum.
Sahaf Tolkoum, à demain.
Retrouvez Ftour du Monde tous les week-ends de 16h à 17h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
C'était Ftour du Monde avec la nouvelle gamme halal de Oanam. Succombez au goût de l'Asie avec la nouvelle gamme halal de Oanam. Némélu, saveur de l'année 2024. Samoussa, brioche et bouchée au filet de poulet halal, origine Europe. Disponible chez Oanam Traiteur, Paris 13e, H Market et Tang Frères.